MDM, tout un monde.
Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM, il est 11h04 et deux invités sont confortablement installés dans la bulle avec moi. Bonjour, Aurore Darros.
Bonjour.
Alors j'allais dire tu, j'allais dire vous, je sais plus où on en est officiellement à la radio, donc on va se dire tu, ce sera plus simple.
Je peux me tutoyer, hein, y a pas de souci.
Aurore, je vais le rappeler pour les auditeurs et les auditrices de Radio MDM, tu es présidente, entre autres, hein, de l'Université populaire des Landes, et tu es accompagnée aujourd'hui par Didier Vigneault, bonjour.
Bonjour.
Didier, vous êtes archéologue, alors après un master décroché dans ce domaine à la Sorbonne, vous préparez en ce moment même une thèse avec l'Université de Pau et des Pays de la Dour, vous êtes rattaché au CNRS et membre du CRAL, alors je vais m'arrêter là pour ce succinct CV détaillé, il s'agissait juste de recadrer brièvement le décor. Est-ce que pour commencer, Didier, vous pouvez nous parler de ce CRAL, Centre de Recherche Archéologique sur les Landes?
Oui, bien sûr. Donc le Centre de Recherche Archéologique sur les Landes est né en 1986, c'est une association en loi 1901, mais son principal créneau c'est de faire des recherches justement dans les labours forestiers, et ceux-là ils l'ont appliqué à partir de 1993 par la découverte de plusieurs sites dans des contextes forestiers. J'ai rejoint cette association dans les années 2000, et depuis on a découvert énormément de sites dans les Landes.
Le lien ou l'intérêt pour les sites forestiers, c'est parce qu'il y en a beaucoup dans les Landes et qu'il y a des choses de spécifiques?
Bah parce que en fait c'était un territoire qui n'a jamais été exploité par l'archéologie, et dès qu'on a découvert qu'il y avait un énorme potentiel, ça a été notre créneau de recherche.
D'accord. Et vous venez de dire que vous avez rejoint cette association dans les années 2000. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez rejoint justement? Est-ce que c'est par rapport, il y a un lien particulier avec vos recherches ou...
J'avais envie de faire de l'archéologie et c'était assez compliqué de pouvoir s'insérer dans une structure archéologique professionnelle. Et il y avait l'opportunité de rejoindre le CRAL qui était une association de bénévoles. Et je les ai rejoints, voilà, ça s'est fait tout naturellement.
D'accord. Mais il n'y avait pas de lien particulier?
Non, pas encore,
déjà...
pas à cette époque-là. La politique de recherche, enfin, ma problématique de recherche s'est développée plus tard. Et spécialement dans les années 2000-2011, après la fameuse grosse tempête que nous avons eue en 2009 dans les Landes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir un créneau de recherche particulier, une politique de recherche particulière dans le bassin de la Midouze.
C'est-à-dire que Klaus a eu la tempête, ouais, que vous évoquiez, a eu un impact sur les recherches,
ouais,
et ça vous a permis de retrouver
normal,
plus,
oui,
de choses.
Klaus a généré de plus en plus de travaux forestiers. Juste à titre d'idée, on passait. Klaus a détruit environ 300 000 hectares de forêt. C'est l'équivalent de 6 fois la communauté urbaine de Bordeaux. Donc, ce qui est quand même assez gros, hein, c'est une,
oui,
grosse surface.
Hein.
Et ces 300 000 hectares, ben, si personne ne venait vérifier ce qu'il y avait dans le sous-sol, ben, tout, on serait passé à côté de nombreux sites.
Ok. Bon, ben, enfin, je vais dire merci, mais pas vraiment non plus. Mais bon. Au moins, il y a un aspect positif à Klaus.
Voilà, alors, c'est ça. Dans le malheur, il y a du bonheur quelquefois.
C'est beau. Philosophique, j'aime bien que ça commence comme ça. Si vous êtes là aujourd'hui tous les deux, c'est pour aborder la deuxième conférence d'un cycle organisé par l'Université populaire des Landes autour de la thématique, je vous le donne dans le mille, de l'archéologie dans les Landes. La première a eu lieu le 19 mai dernier, en ligne, pour l'accessibilité. Vous y évoquiez un mythe qui est toujours bien présent aujourd'hui, celui du désert landais.
Ah, tout à fait, hein. On a toujours dans notre conscient, ce mythe qui est toujours vivace du désert landais. Alors ça vient de notre éducation, parce que depuis tout petit, on nous apprend que les Landes étaient un véritable désert. Et en fait, c'est un véritable mythe, puisqu'on se rend compte maintenant que les Landes ont été très très occupées, de la même façon que les autres territoires à côté. Malheureusement, ce mythe est très vivace, et maintenant encore, dans l'esprit des Landais, lorsque vous leur parlez, pour eux, les Landes étaient un marécage insalubre, ce qui est totalement faux. Et ça, on l'a montré grâce à des analyses palino-environnementales, c'est-à-dire qu'on est allé rechercher d'anciens pollens qui se trouvaient piégés dans des lagunes. On a réalisé des études et on s'est aperçu que les Landes, autrefois, avaient un environnement qui était complètement différent et étaient sous couvert forestier, mais non pas par une forêt de pins, telle qu'elle est actuellement, mais par une forêt de chênes. Donc il y avait une forêt de chênes autrefois, qui a été de plus en plus exploitée, jusqu'à créer ces fameuses landes, Donc là, c'était une première, on peut dire, catastrophe environnementale. On a déboisé totalement une forêt pour en créer une lande. Et après, comme tout le monde le sait, Napoléon est arrivé à imposer sa politique de reboisement avec du pin.
Fameux Napoléon. Aurore, ça s'est passé comment pour vous? Parce que c'est l'UP qui est à l'initiative de ce cycle de conférences. Est-ce que ça a été un succès, cette première?
Ah oui, on s'attendait vraiment pas à avoir 100 participants. Quoi. On est parti vraiment de zéro, ouais, sans tout rond. Et en plus, les gens sont restés pratiquement jusqu'au bout. Hein. Quand on a eu fini la conférence, on est passé aux questions, on était encore 80. Donc, parce que souvent, les gens partent en cours de route.
Ça a duré combien à peu près, cette conférence?
On n'était pas loin de le tout 2 heures.
Hein. Ouais, ouais, même un petit peu plus avec les questions.
Un peu plus avec les questions, Oui, je suis assez bavard, donc ça devait durer 1h20, 1h30, ça a duré 1h45 et ça s'est fini par 2h15, je crois, si je me souviens bien, avec les questions.
Ah, parce qu'il faut arriver à captiver, hein, avec ce format en ligne, on peut plus facilement perdre l'attention des gens qui sont présents virtuellement.
Et puis c'est assez déstabilisant aussi lorsqu'on est orateur de se retrouver face à son écran et puis en fait on parle à un écran, donc c'est vrai qu'on préfère les conférences en direct. Est-ce que là, on a un écran vide en face de soi et on voit pas du tout le ressenti des gens, on voit pas du tout les expressions du visage, donc c'est assez déstabilisant.
Ouais. Bon, on voit le petit chiffre quand même qui reste à 100 et ça doit être
rassurant
et encourageant.
Et c'est encourageant pour la suite. En plus, on s'est assez bien organisé. Didier donc faisait toute la présentation. Alors, moi, je surveillais le chat derrière, je faisais la régie. Donc, puis le résultat était assez prometteur, quoi. C'était la toute première fois en fait qu'on essayait ce format. Et le Covid, encore une fois, tout comme Klaus, dans le malheur, il y a un peu de bonheur. Ça nous permet de mettre en place des nouvelles pratiques, de les tester et surtout de voir qu'elles fonctionnent. Et ce qui a été bien là aussi, c'est que ça nous a permis d'avoir des gens connectés qui venaient de tout le département, de la Nouvelle-Aquitaine.
Oui, même au-delà.
Même au-delà, on avait en Espagne, jusqu'au nord de la France, même ailleurs. Je pense qu'il y en avait aussi tous les âges. J'avais tous les âges de connecter, c'était super. C'est un de nos objectifs aussi à l'UP, de partager le savoir avec le plus de monde possible. Et là, on a touché des personnes qui auraient peut-être pas pu venir non plus en temps normal à Mont-de-Marsan, soit parce qu'elles sont dans des territoires ultra ruraux, très reculés, on peut ne pas avoir le permis, on peut être en situation de handicap, on peut être malade. Pour diverses raisons, on ne peut pas se rendre à Mont-de-Marsan pour une conférence. Et bien là, sous ce format-là, ça nous a permis de capter ces personnes-là. Et on espère qu'elles reviendront par la suite. Quoi. Du coup, tout le cycle se déroulera après en présentiel et en visio. On fera les deux. Voilà.
Juste pour rester sur la partie Internet, pour préparer l'interview, je suis allée un petit peu regarder sur le site du CRAL qui expliquait justement, je crois que ça fait un moment qu'il n'a pas été mis à jour, mais il y a quand même des infos qui disaient qu'il y a eu 3 ou 4 versions mises en place pour ce site parce que finalement, il a attiré plein de gens, que les personnes qui avaient mis en place ce site du CRAL ne s'attendaient pas à ce que des personnes hors du département des Landes s'intéressent à ce qui se passe en termes d'archéologie dans les Landes. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc.
Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est un ancien collègue qui avait mis en place ce site, qui n'est malheureusement plus mis à jour, donc il n'est plus d'actualité. C'est pour ça qu'on va créer, là on est en train de créer une page Facebook vraiment dédiée au CRAL, jusqu'à temps qu'on ferme l'ancien site, hein, puisque ça a beaucoup évolué à l'époque où, lors de cette dernière mise à jour, je crois qu'il y avait 400 sites recensés autour de Mont-de-Marsan, dans le bassin de la Midouze, et maintenant on est à plus de 1400.
Bon. Oui, peut-être 2-3 mises à jour à faire, effectivement. Bon, très bien. Donc, on suivra cette partie Internet et évolution également. Mais revenons à notre deuxième conférence. Elle aura lieu mercredi 16 juin et elle abordera cette fois-ci des questions de construction et l'influence romaine. Une thématique que vous avez également, Didier, abordée avec Jeanne-Marie Fritz dans sa nouvelle émission Leur histoire, c'est aussi notre histoire. Et on peut faire un petit peu d'autopromo, hein, ne nous privons pas. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette deuxième conférence qui se profile?
Oui, bien sûr. Alors, le titre exact, en fait, ça va être « Vivre à la campagne pendant la période romaine, avant et après, comment étaient les constructions ». En fait, le but, c'est d'essayer de décrire la vie que l'on avait dans les Landes à l'époque romaine, quelles constructions étaient réalisées, comment elles étaient réalisées, essayer peut-être de faire des parallèles et essayer de comprendre ce que les gens avaient comme nourriture à l'époque, ce qu'ils exploitaient, bref, tout ce qui anime la vie à cette époque-là. Alors je veux pas trop en raconter, sinon ça serait voilà, on va perdre des auditeurs durant la conférence. Mais en fait, c'est de comprendre comment on vivait dans les Landes pendant la période romaine, ce que l'on exploitait, ce que l'on faisait, ce que l'on mangeait, quel était le commerce. Et après, bien évidemment, tout cela sera détaillé dans d'autres conférences. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Chaque thématique va être détaillée après.
J'ai une question qui me vient. Est-ce que pour une raison X ou Y, on peut pas être en ligne non plus le jour de la conférence, est-ce que elles sont enregistrées, est-ce qu'elles sont diffusables ou on peut les retrouver sur le net plus tard?
Non, justement. Enfin, moi, je vais répondre. Justement, la prochaine sera une web conférence. Elle sera pas enregistrable. Parce qu'il y a des données quand même qui sont assez compromettantes, enfin pas compromettantes, mais qui sont sensibles, pardon, et qui risquent d'attirer certains pilleurs. Donc on veut pas tellement laisser la possibilité à certains d'enregistrer ces conférences. Mais par contre, elle sera répétée en présentiel cette fois-ci.
Oui, c'est ça, dans le programme de la rentrée.
Ouais,
on la retrouve début septembre.
Ouais,
c'est ça.
Le 8 septembre, on sera à la salle Lamarque Cando de Mont-de-Marsan et en visio également. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu être présents le 16, faire une deuxième séance.
D'accord. Ce sera la même ?
Exactement la même.
Ok. Ouais.
Exactement
okay.
La même.
Très bien. Alors, j'aimerais bien savoir comment vous avez construit ou co-construit justement ce cycle de conférences qui va se prolonger jusqu'à au moins février 2022.
On a vu que la première avait vraiment bien marché et on s'était posé la question dès le départ de si la première fonctionne, on va en faire d'autres, rentrer un petit peu dans le détail parce que Didier et ses confrères ont fait énormément de découvertes. Et donc on a trouvé l'idée assez sympa de prendre le modèle un peu des livres Martine, les enfants. Voilà, on a trouvé de quoi vous occuper et à chaque fois on va prendre une thématique et commencer avec un titre un peu rigolo, un peu enfantin et après on rentrera dans le vif du sujet.
Ouais, peut-être l'idée aussi de dire que c'est pour tout public.
Exactement.
Ces conférences.
Exactement, c'est pas spécialiste, professionnel.
Voilà. Pas besoin d'être spécialiste pour suivre les conférences. J'essaye au contraire un maximum de toucher le plus grand large public, un public assez large. Et il n'y a vraiment pas de mots compliqués à l'intérieur de ces conférences, pas de mots techniques pour justement qu'elles soient à la portée de tous. Parce que j'ai déjà assisté des conférences où à la fin, même moi, pourtant je suis spécialiste, et même moi à la fin, je me dis mais qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait ? Et c'est assez compliqué, donc exprimer ce que l'on veut raconter avec des mots à la portée de tous. Voilà.
Toi, Aurore, t'es intervenue dans le choix des thématiques, par exemple ?
Pas du tout. Je les laisse vraiment choisir. Je leur fais en plus entièrement confiance. Et moi, dès le départ, c'est une thématique que je trouvais super intéressante. J'en ai parlé la première fois avec un des confrères de Didier, qui est Thomas Valbot, qui est archéologue également. Et Thomas m'a expliqué qu'il n'y avait pas de musée dans les Landes où on pouvait voir toutes leurs trouvailles, tout ce qu'ils ont mis à jour, en fait. Et moi, je voulais absolument valoriser leur travail parce qu'ils refont l'histoire. C'est toi qui le dis très bien, Didier. Et moi, ça m'intéressait qu'ils viennent rendre l'histoire hollandais et hollandaise au sein de l'UP. Et il a été tout de suite d'accord. Il a adopté tout de suite les valeurs de l'éducation populaire pour partager son savoir. Donc, je suis très contente que ça se soit fait avec autant de facilité. Ça a mis du temps, parce que la première fois qu'on en a parlé, c'était il y a un an et quelques mois. Mais en fin d'année, Didier était donc jeune papa, donc je lui ai laissé son congé parental. Et en début d'année, on s'est rencontrés et puis on a monté ça, quoi. Mais je suis très contente.
Oui, c'est très important aussi que ça soit aussi cette vision société civile qui intervienne. Notamment l'université populaire, ça représente la société civile et ça permet à des personnes de reprendre des études et d'obtenir l'équivalent d'un bac. Hein. Et nous, qui sommes association aussi, où on vient ici se mettre à la portée de tout le monde en leur retournant leur patrimoine. et on se substitue pas à l'État, parce que l'État intervient aussi dans les Landes, mais de façon plus ponctuelle. Mais s'il n'y avait pas justement nous en tant qu'association, donc société civile qui intervenait dans les Landes, on n'aurait jamais eu autant de découvertes de fait.
Et Aurore, justement, je me demandais pourquoi l'archéologie plutôt qu'une autre, tu disais l'importance de rendre l'histoire, mais ça vient enrichir effectivement le catalogue de l'UP, mais il y a plein d'autres thématiques. Pourquoi
spécifiquement cette partie archéologie? C'est parce que c'est au fil des rencontres aussi. Moi, il y a plein de thématiques universitaires que j'aimerais qu'on ramène à l'UP. Il y en a plein d'autres qui vont arriver, mais celle-ci, parce qu'en plus, il y avait la facilité de connaître déjà quelqu'un qui était dans cette branche-là. Donc ça a facilité les choses, mais ça aurait pu être une autre thématique, philo, histoire, sciences éco, sociologie. Mais l'occasion s'est présentée avec la rencontre de Thomas, et puis moi c'est une thématique qui me passionne beaucoup, donc voilà. Puis c'est le patrimoine commun.
Pour en savoir peut-être aussi un peu plus que... Enfin, connaître un peu plus de choses que juste la dame de Brassimpouille,
voilà,
qui n'est pas que la seule chose de la préhistoire qui existe
tout
dans
à
les
fait,
Landes.
Ouais, c'est ça.
Bon, très bien. Est-ce qu'il y a des spécificités pour s'inscrire, ou on va juste sur la rencontre Zoom et on se laisse porter
sur le lien? Là, on a mis des codes.
Ouais, on a mis des codes pour éviter d'être spoilé, parce qu'on s'est rendu compte, enfin, des collègues ont eu de malheureuses aventures avec Zoom. Ils se sont retrouvés avec leur site qui a été piraté, donc leur conférence piratée. Donc là, on a mis un code qui est accessible, que l'on trouve sur les présentations de nos conférences. Donc il suffit juste de taper le code et c'est bon.
Ok, bon, très bien. On se permettra de mettre le lien vers la conférence dans l'article du podcast.
Ouais.
Je vous invite aussi à aller écouter, si vous ne l'avez pas fait, les premiers épisodes que vous avez partagés avec Jeanne-Marie.
Avec Jeanne-Marie, oui.
Pour leur histoire, c'est aussi notre histoire. Et puis on se donne rendez-vous le 16 juin à 19h en ligne pour en savoir un peu plus sur... cette vie à la campagne dans les Landes.
Ça serait intéressant.
À l'époque. Merci beaucoup d'être passé sur les ondes de Radio MDM pour nous présenter ce programme alléchant.
Merci à toi.
Merci Nico, à la technique aussi.
Faites vos valises.
Faites vos valises.
Restez sur MDM.
MDM.